Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote.
France Inter. Grand bien vous fasse. Le podcast.
Et si on changeait de vie, c'est une question que vous vous posez peut-être en ce moment. Et nous allons vous aider à opérer ce changement de métier, de lieu de vie, d'existence, pour le meilleur évidemment. Dans cet épisode, comment trouver un territoire où je me sens à ma place.
Et c'est en faisant ce trail, en découvrant ces paysages, que tu as eu envie de t'installer ici?
Oui, je m'y sens bien. Je m'y sens bien, ça s'explique pas. C'est varié, la nature, on la ressent, on vibre avec. Les saisons sont très marquées. C'est ce qu'on m'a dit tout de suite quand je suis arrivée ici. « Ouais, tu trouves ça joli, c'est l'été, mais tu verras l'hiver. » J'ai pas peur du froid. Ouais. En même temps, on a cet été qui est ici.
Et tu t'y sens bien parce que les gens d'ici t'ont tendu la main aussi?
Bien sûr, c'est sûr. Non, on vient pas sans... C'est l'humain, en fait. Il y a un tout. L'équilibre, le bonheur d'une vie, c'est aussi les relations humaines qu'on y trouve.
Extrait de l'émission Échappée Belle diffusée sur France 5 en novembre 2023. Bonjour Alexandre Jost.
Bonjour Ali.
Vous êtes le fondateur et le délégué général de la Fabrique Spinoza, le mouvement du bonheur citoyen. Et votre observatoire propose une vaste et passionnante étude, territoire et mode de vie heureux, autour de 12 grands principes qui structurent les territoires heureux. Tiens, que vous inspire ce témoignage dans Échappée Belle?
J'aime bien le fait qu'on parle de saison. La capacité à se reconnecter à ce qui bouge, à quelque chose de plus profond. Et je pense que c'est le sens de l'étude. En préambule de l'émission, on entendait Laetitia qui disait « on faut bien faire des choix ». Et finalement, ce qu'on a vraiment envie de se dire, c'est est-ce que les choix qu'on opère, ils vont toucher des choses profondes et intimes qui font qu'à la fin, on est heureux là où on habite.
Bonjour Dorothée Barba.
Bonjour Ali.
Animatrice et productrice de Carnet de campagne du lundi au vendredi à 12h45. On peut dire que c'est un crossover en bon français. Grand bien vous fasse, Carnet de campagne.
Quelle fierté immense.
Co-présenter cette émission avec moi. Votre émission, c'est un magnifique poste d'observation de ces aspirations à concilier territoire et quête de sens.
Exactement. Le principe, la règle du jeu, si j'ose dire, c'est qu'on suit à la trace le jeu des 1000 euros qui se promène, vous le savez, partout en France. Chaque semaine, on consacre 5 émissions à un département français et on recense des initiatives, des gens géniaux, comme je dis souvent, dans tous les domaines, que ce soit écolo, solidaire, social, entrepreneurial, sportif, le vivre ensemble, le lien social. Et ce qui est fou, c'est c'est évident de constater tout ce qui se passe partout. D'ailleurs, je reçois énormément de courriers en ce moment d'auditeurs qui me disent « heureusement que vous êtes là ».
Exactement.
Avec l'actualité anxiogène, c'est le journal des bonnes nouvelles, le carnet de campagne et on est assez fiers de ça.
Et dans Carnet de campagne, vous racontez la vie de ces Français qui ont changé de vie, de territoire et vous racontez également toutes ces initiatives nées après la crise sanitaire.
Exactement. Le nombre de fois où je dis c'est encore une histoire de Covid, ça me frappe. Des gens qui pendant la crise sanitaire se sont dit là ça va pas, il faut que je change quelque chose, il faut que je repense mes priorités. Souvent ils retournent chez eux, c'est amusant, vous me direz ce que vous en pensez Alexandre, mais souvent ils retournent là où ils sont nés et ils créent qui un tiers-lieu, qui une épicerie, ils se lancent dans l'artisanat, les reconversions. Alors, ça ne veut pas dire que c'est à la portée de main de tout le monde, de changer de vie, mais il y a un signal faible, comme on dit là-dessus. Il y a une tendance à mieux réfléchir à ce qu'on veut faire, à ce qu'on a envie de faire pour donner du sens, évidemment.
Bonjour Damien Deville.
Bonjour.
Vous êtes géographe, anthropologue, chercheur associé au laboratoire Médiation à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous habitez dans le sud de la Sarthe, un territoire en adéquation avec vos aspirations profondes.
Oui, en fait, moi j'ai grandi à la campagne et l'arrivée de mon fils nous a donné envie d'y retourner assez rapidement. Et en bon géographe, j'avais fait un tableau pour savoir quel territoire pourrait me correspondre le plus. Et dans mon top 5, il n'y avait pas la Sarthe. Ouais. C'est vraiment le décès de ma grand-mère qui nous a invités à reprendre sa maison à laquelle on était très attachés. Et c'est marrant parce que depuis que je suis en Sarthe, j'ai réalisé deux choses importantes. La première, c'est que les fantômes peuvent pas tuer les vivants. Par contre, les vivants peuvent tuer les fantômes en les oubliant. Et je suis très heureux d'expérimenter une vie qui empêche l'oubli. Et la deuxième chose, c'est en fait ce que je recherchais, me regarder déjà dans les yeux depuis que j'étais enfant. Au fond, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. L'herbe est verte là où on arrose le sol, tout simplement. Ce qui compte, c'est on se sent bien quelque part lorsqu'on cultive des liens d'usage et d'affection à un lieu. Et tout l'enjeu citoyen, entrepreneurial, politique d'aujourd'hui, c'est de catalyser ces liens. Voilà.
Alexandre Jost.
Ouais, je trouve ça magnifique parce que, en fait, les gens opèrent des choix de vie parfois sur les mauvais critères. On va dire, je déménage à tel endroit parce qu'il fait beau, par exemple. Or, la science montre qu'il n'y a pas de lien de causalité ni même de corrélation entre le climat d'un lieu et le fait qu'on s'y sent bien, qu'on soit heureux, parce que finalement, de manière c'est structurel, donc on s'y habitue. Et donc, opérer un choix là-dessus, ça ne sert à rien. En revanche, se dire, il y a une crise de sens, et il y a un sociologue qui s'appelle David Le Breton, qui dit qu'aujourd'hui, on a un mal civilisationnel, c'est un vide existentiel. Ce vide existentiel, il est surtout transclasse. On pensait qu'il était réservé à des gens CSP+, en plus. En fait, non, il touche la totalité des populations. Aujourd'hui, c'est dire quel est l'endroit dans lequel je pourrais être épanoui. C'est intéressant. Et peut-être un chiffre nous qui nous a marqué dans notre étude, c'est que quand on demande aux gens qu'est-ce qui fait que vous pouvez construire votre identité, ils répondent 1, quand même la famille, 2, les amis, et en troisième, ex aequo, 28% des gens le citent. Ex aequo, c'est le travail ou un lieu auquel je suis attaché. Et donc, en fait, on est en train de se dire finalement le territoire... Et sans doute une grande respiration pour retrouver un peu de sens.
Dorothée.
Question qui n'est pas pour un ami. Est-ce qu'il y a un lien entre être heureux et le temps qu'on passe dans les transports, Alexandre ?
Sachant que on connaît la corrélation entre type de transport et épanouissement. Donc, ce qui est le mieux, 1 pour la santé et 2 pour le bonheur, c'est d'abord la marche, puis le vélo, puis les transports publics, et seulement en quatrième la voiture. Alors, en disant ça, moi j'ai pris je vais pas faire de contre-publicité, mais certains transports publics pendant quelques années, et il y a quelques difficultés parfois.
Hier, j'étais dans le métro bondé, je me suis mis à discuter avec ma voisine, et c'était une auditrice de France Inter qui m'a dit « Ah, c'est vous, carnet de campagne ?» Et elle m'a dit « Votre émission, elle donne envie de quitter Paris tous les jours !» Et on était dans le métro blindé et je pouvais pas la contredire. On a envie de quitter Paris, quand on écoute les carnets de campagne.
En fait, le chiffre qui me vient en vous écoutant, Dorothée, c'est que 65% des gens disent que les transports sont un moyen d'émancipation. Et je pense qu'il faut le voir comme ça, il faut le voir comme qualité de vie au quotidien, mais aussi comme quelque chose qui nous permet d'atteindre, d'accomplir quelque chose d'important.
Damien Deville.
Oui, en fait, pour rebondir sur ce que disait Dorothée et Alexandre, c'est vrai que ce qu'on observe, par exemple, dans le métro parisien, vous savez, c'est ces pubs pour chercher à attirer les gens dans les territoires.
Et, bon, avec des jeux de mots un peu particuliers, souvent.
Parfois, le territoire qui est très bien vendu, très bien mis en image. On peut en rire, mais en fait, c'est des politiques qui coûtent très cher, qui sont souvent financées par des territoires qui ont du mal, qui ont souffert de la désindustrialisation. Et c'est des sous qu'elles mettent pour attirer des gens qui ne sont pas là, qui potentiellement ne viendront jamais, laissant parfois sur le carreau les gens qui sont déjà là et qui auraient tellement à apporter au territoire si on savait les regarder autrement. En fait, et là je fais référence aux travaux d'un collègue qui s'appelle Olivier Bouba-Olga, qui est basé à Poitiers, il a bien montré que dans les migrations résidentielles, les deux principaux facteurs qui fait qu'on s'installe dans un territoire, c'est soit l'emploi, ça Alexandre l'a très bien rappelé, soit effectivement des liens d'usage, voilà, ou d'affection à un lieu. On retourne dans le territoire de son enfance, on se rapproche des parents, on se rapproche des enfants. L'enjeu pour les communes, du coup, c'est pas de faire des pubs pour attirer sur le territoire. Les gens viendront s'ils y ont des affections ou de l'emploi. L'enjeu, c'est de faire en sorte que ces personnes restent. Donc travailler, au fond, des politiques du bien-être, des démarches du bien-être, pour inciter les gens à pérenniser leur action dans les territoires et pourquoi pas à s'engager à leur échelle pour la vie de la commune.
Alexandre Jost, on va beaucoup utiliser le terme territoire ce matin. Il existe une infinité de définitions du territoire. Ça peut être un territoire de vie, un territoire nourricier, un territoire de santé, un territoire de jeu.
Merci de le présenter ainsi. En fait, notre point de vue, c'est que de la même manière qu'un individu peut chercher à trouver sa raison d'être sur un lieu, un territoire peut aussi réussir à trouver sa mission et sa raison d'être. On utilise le mot d'ikigai territorial pour en parler.
On va y revenir.
Mais ce qui nous paraît important, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de territoires, de bassins de vie, ça peut être différentes échelles, se disent c'est quoi vraiment notre ADN et comment est-ce qu'on arrive à le caractériser. Et les appellations que vous avez utilisées, Ali, territoire solidaire d'avenir, territoire féministe, territoire de musique, je voyais dans le métro justement Damien ce matin, sont des manières de dire on fait la synthèse de ce qui fait que l'on est vraiment quelque chose. Et je prends un exemple. On travaille avec les Landes. Et les Landes, en interrogeant des citoyens, ils nous disent, nous, il y a le mot simplicité, authenticité, mais il y a le mot liberté qui revient, parce qu'il y a un océan, et ils nous disent non, il n'y a pas la mer chez nous, il y a l'océan. C'est sauvage, c'est brut, c'est de la liberté. Et je trouve ça intéressant de réussir pour un territoire à se redéfinir, pour qu'après les citoyens se disent oui, il y a vraiment un écho entre cette aspiration à la liberté et ce que ce territoire dégage, parce que c'est vraiment ce qu'il est en fait.
Alors dans l'étude de la fabrique Spinoza, vous affirmez, et je cite cette étude, que le territoire peut aussi s'envisager comme un espace-temps vivant qui a son propre métabolisme en fonction de ceux qui l'habitent.
Bah, en fait, finalement, on peut voir le territoire comme un ensemble de relations, hein, de relations entre les pouvoirs publics, les habitants, les entreprises, mais si on le dessine ainsi, ça nous fait nous demander, nous, en tant que citoyens, est-ce que j'ai envie de vivre sur un territoire parce que les relations sont d'un certain ordre? Est-ce que j'ai envie de vivre, par exemple, dans le 14e arrondissement parce que République de Paris, parce que la République des hyper voisins a organisé un dîner avec 3000 personnes ensemble, une grande tablée, et donc moi j'aime les relations sociales qui sont denses. Est-ce que j'ai plutôt envie d'une relation qui soit du folklore, et là je vais aller dans le Var parce que tous les jours de l'année il y a globalement une fête. Est-ce que j'ai envie de vivre à Dunkerque parce que à Dunkerque, ma manière à moi de me relier aux autres, c'est une forme de trans-classe, de solidarité entre les différentes populations. Ou un dernier exemple, et ça j'ai adoré ça en voyant dans les Landes, c'est que les gens nous disent, sur notre territoire, parce qu'on a un historique d'exploitation forestière, les individus ressentent une sorte de volonté d'émancipation face à des propriétaires terriens. Et donc nous, notre cohésion, elle est un peu de solidarité, presque de combat. Et donc, moi, ça peut me parler en tant qu'habitant. Et tout ça pour dire, in fine, j'habite sur un territoire, une fois que j'ai compris le type de relation auquel j'aspire entre les individus dans lesquels je peux m'insérer.
Alors, vous utilisez une méthode pour aligner habitants et territoires. C'est l'ikigai territorial, cette rencontre du territoire et de la quête de sens. Alors, tout d'abord, je pense que l'écrasante majorité de nos auditeurs et auditrices n'ont jamais entendu parler de ce mot japonais, ikigai. C'est un outil de développement personnel et littéralement en japonais, cela signifie ce pourquoi la vie mérite d'être vécue. Et dans leur livre consacré à l'ikigai, Hector Garcia et Francesc Miralles montrent que l'ikigai représente le sens de la vie, le moteur de l'existence, la boussole qui guide les choix.
Oui, ce terme, il est là pour dire est-ce que je peux quadranguler quatre choses, quadranguler, eh bien, d'une part, ce que je sais faire, mes compétences. D'autre part, ce que j'aime faire, mais aussi ce qui me permet de vivre. Et enfin, mon sens et mon utilité. Et si on croise ces quatre choses, eh bien, on arrive à sa propre raison d'être. Et nous, on a détourné ce concept en disant, est-ce qu'on peut imaginer son ikigai territorial ? Est-ce que je peux trouver le territoire sur lequel je m'accomplis ? Et je vais prendre un exemple. Est-ce que le travail que je veux faire, c'est bien ? Mais le travail sur un territoire, c'est autre chose. Parce que travailler dans l'informatique, dans la Silicon Valley, c'est pas la même chose que de le faire dans un autre endroit.
Dorothée Barba.
Je pense à tous ces gens qui ne peuvent pas choisir où ils travaillent.
Exactement.
Par exemple, les profs, l'éducation nationale impose souvent un territoire au moment de passer le concours. Voilà, quand on peut pas choisir où est-ce qu'on travaille, l'ikigai, c'est bien joli, non, Alexandre?
Bah, c'est vrai, l'ikigai, malgré tout, il permet de rechercher les quatre pétales dans différents domaines de sa vie. Donc, il est possible de s'accomplir indépendamment de son travail, même
avec
si
seulement trois pétales, vous voulez dire.
Avec seulement trois. Non, que le quatrième pétale soit pourvu par le couple, par ses amis, par autre chose. Mais bon, sans angélisme, on n'a pas tous la même capacité de choix dans son existence.
Damien Deville.
Oui, sur ce que disait Dorothée, je veux bien rebondir. Effectivement, parfois on débarque dans des territoires parce qu'on a des injonctions plurielles, pas que l'emploi d'ailleurs. Parfois on a envie de partir, mais il faut reprendre l'entreprise familiale, on n'en a pas trop envie. Mais parfois la vie continue à passer parce que malgré tout, on trouve des zones d'espoir et de bonheur dans ces territoires. Ça me fait penser à un conte soufi, il est très court, je vais permettre de le citer parce qu'il est très beau et je pense qu'il marche bien dans les territoires. Alors bon, je suis pas conteur, je vais le raconter à ma façon.
Si, un peu.
Mais bon, c'est dans des temps très anciens. Un étranger arrive dans un village et il demande à un vieux commerçant assis là, comment sont les gens ici ? Et le vieux commerçant lui répond par une question, comment étaient les gens dans le village d'où tu viens ? Et l'étranger lui répond, ils étaient méchants et aigris, c'est d'ailleurs pour ça que j'en suis parti. Alors le vieil homme lui répond, tu trouveras les mêmes ici. Un deuxième étranger arrive un petit peu plus tard et pose la même question au vieil homme. Le vieil homme lui répond, encore par une question, comment étaient les gens dans le village d'où tu viens ? Et le deuxième étranger lui répond « Ils étaient bons et accueillants, j'y avais beaucoup d'amis, j'ai eu du mal à en partir. » Le vieil homme lui répond « Tu trouveras les mêmes ici. » Il y a un chamelier, juste à côté, qui avait entendu les deux conversations. Dès le deuxième étranger parti, il va voir le vieil homme et lui dit sur un ton de reproche « Comment tu peux donner des réponses si différentes à la même question ?» Et le vieil homme lui répond « Tout simplement parce que chacun porte en lui son propre univers. » Tout ça pour dire que les territoires, certains territoires ont été blessés au fil du temps. C'est vrai que sur le papier, certains territoires vont mieux que d'autres. Mais on a besoin de repeupler nos imaginaires, repeupler nos connaissances des lieux, changer de lunettes au fond, dans la manière dont on perçoit l'altérité qui nous entoure pour pouvoir métamorphoser ces territoires. Au fond, les territoires de demain seront ce que nous en ferons nous-mêmes.
La matrice de compte que vous êtes, Dorothée Barba, valide.
Ah oui, c'est magnifique. Je pense, on parlait tout à l'heure des publicités dans le métro, je pense à une initiative locale qui me plaît beaucoup, ça se passe en Dordogne. Ce sont des maires de communes qui veulent attirer de nouveaux habitants, les fameux néo-ruraux dont on parle tant, et qui ont créé une plateforme qui s'appelle Mes Nouveaux Voisins. Et c'est un peu « J'irai dormir chez vous ». En fait, on se connecte sur Mes Nouveaux Voisins, ça coûte pas grand-chose, et on peut aller habiter pour une courte période chez des gens dans un village ou un autre pour tester la vie sur ce territoire, et ensuite décider ou non de s'y installer. Ça permet d'avoir une vision très précise, un peu comme si on demandait au vieil homme de votre compte de ce qu'est la vie sur place et ensuite décider d'y vivre ou non.
Comment trouver un territoire, une région, un département, une ville, un village, un quartier dans lequel je m'épanouis, je trouve un sens à ma vie? C'est la question que nous posons avec la Fabrique Spinoza qui publie l'étude « Territoire heureux » et avec « Carnet de campagne » de Dorothée Barba.
En pleine crise sanitaire, ils ont pris la clé des champs, un sésame pour une vie meilleure. Pascal, ancien employé dans la parfumerie, est aujourd'hui maraîcher à Grasse. À Fayence, la famille Davies a attrapé le virus d'une vie ensoleillée à la campagne. Depuis un an et demi, Fabrice, agent immobilier, confie chaque jour la clé des champs à des citadins en quête de nature. Portrait croisé de ses nouvelles vies à la campagne. À l'heure dorée, où tout le monde prend la route pour aller travailler, Pascal Gracq, lui, savoure le goût de sa nouvelle vie.
Et comment alors cette tomate? Elle a quoi comme goût?
Elle est très bonne. Et on sent beaucoup de sucre, très charnu. Bonne tomate.
Extrait d'un JT de France 3 en 2020, de plus en plus de Français sont en quête d'un territoire qui les épanouisse. Après la crise sanitaire, environ 8% des Français ont déménagé pour concilier leurs aspirations personnelles et professionnelles et trouver un espace qui leur corresponde. C'est un flux relativement faible, mais qui bouleverse les territoires. Damien Deville, je rappelle que vous êtes géographe et anthropologue. Est-ce qu'on a exagéré cet exode urbain post-Covid ?
Alors, il y a eu des flux migratoires et résidentiels, effectivement, mais ce qu'on observe, c'est que la plupart de ces flux se sont faits d'une grande métropole à une autre métropole, certes plus petite sur le papier, mais en fait, quand on dézoome, c'est-à-dire au-delà des vieux centres qu'on aime visiter d'une métropole à l'autre, quand on va y passer un week-end, lorsqu'on regarde les indicateurs de développement, les démarches, les trajectoires, au fond, de ces territoires, toutes les métropoles s'inventent autour des mêmes modèles de développement. Il n'y a rien qui ressemble plus à Toulouse que Brest, Paris,
ne
Lille.
Ne dites pas de mal de Toulouse, attention, malheureux, attention.
Et c'est le paradoxe, c'est que, en fait, par la position de leur corps, ces gens-là vont participer à la même trajectoire de développement que celle qu'ils ont voulu préalablement quitter. Il y a bien eu des gens qui sont retournés dans des campagnes ou dans des villes petites et moyennes, et cela s'est fait souvent au bénéfice de territoires qui allaient déjà bien et qui étaient déjà très attractifs. Pensons au littoral, aux montagnes ou aux terres de l'Ouest. La Sarthe est concernée, même si ce n'est pas le département le plus attractif des terres de l'Ouest.
Je rappelle que vous êtes sartois. Dorothée Barba.
Il me semble, dites-moi si je me trompe, qu'il y a un immense décalage en France entre le nombre de gens qui voudraient vivre à la campagne et ceux qui y habitent vraiment.
Oui, mais en fait, ce que j'observais dans ma thèse de doctorat, donc moi j'ai travaillé sur les Cévennes lors de ma thèse, donc un territoire qui a été blessé par les exodes ruraux, puis par la rapide désindustrialisation de la France à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un enjeu à repeupler les Cévennes, car la biodiversité des Cévennes, patrimoine mondial de l'UNESCO, s'écroule parce que les Cévennes ne sont plus habitées, justement. Sauf que bien sûr, ces gens-là ne reviendront pas en Cévennes si... n'y a pas de service public, s'il n'y a pas de médecin, s'il n'y a pas d'opportunité, s'il n'y a pas aussi une fabrique des imaginaires qui rend justice à la diversité des territoires. En France, on est dans un système, bon, on le sait, très centralisé, et il suffit d'aller au cinéma pour se rendre compte que tous les films se passent dans les grandes villes, et souvent à Paris. Ça peut paraître anecdotique dit comme ça, mais ça crée une non-représentativité culturelle et démocratique de ce qui compose pourtant les trois quarts du pays. Il faut chercher à rediversifier nos imaginaires pour rediversifier nos projections et les envies d'installation.
Bonjour Valérie Jossomme.
Bonjour.
Vous êtes enseignante et chercheuse CNRS à l'Institut de Géographie et d'Aménagement de l'Université de Nantes et vous avez publié Plouc Pride, un nouveau récit pour les campagnes aux éditions de l'Aube. Alors, assiste-t-on à un renversement des imaginaires ? Longtemps, la ville a été un modèle désirable, mais il existe des signaux faibles qui montrent que nous vivons peut-être un début de renversement dans la manière dont on parle de la ruralité.
Complètement, je suis vraiment ravie d'entendre tout le monde là ce matin vanter la diversité et la ruralité. Je peux vous assurer qu'il y a 10 ans, parler positivement de la campagne, c'était très difficile. On était assez vite taxés de réactionnaires ou de nostalgiques. Parce qu'on peut dire que, grosso modo, depuis la révolution industrielle, la ville est devenue l'idéal collectif, le centre démographique, économique, politique, culturel. Et la campagne était traitée depuis un siècle quasiment comme une catégorie du sous-développement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est en train de sortir de cette culture de la modernité issue un peu de la révolution industrielle. Et on voit bien que le monde qui est en train de naître, d'émerger, il va générer une nouvelle façon de vivre avec une forme de désurbanisation. Je pense qu'on va vers une société qui va réhabiliter les petites villes et les territoires ruraux. Et ce renversement des imaginaires, on pourrait dire... Bon, pour le moment, effectivement, c'est plutôt un signal faible, voilà. Mais il faut pas négliger l'imaginaire, parce que moi, je dis toujours que l'imaginaire, c'est vraiment le premier stade de la matérialisation d'une idée. On va dire que ce qui est pensé, dans un premier temps, va atterrir dans la matière, va se concrétiser. Et moi, je pense que ce renversement des imaginaires, c'est le point de départ d'une matérialisation à venir, d'une évolution de l'aménagement du territoire.
Alexandre Jost, délégué général de la Fabrique Spinoza.
Oui, ça me parle beaucoup. Les sociologues disent que les représentations surdéterminent le vécu. Donc je crois beaucoup au récit. Et justement, en parlant de récit, il me semble qu'il faut casser la caricature qui oppose la ville et la campagne pour deux raisons. La première, c'est qu'on peut avoir de la nature près de soi et ne rien en faire. Et aujourd'hui, les experts suggèrent que si on entre en résonance avec la nature parce qu'on l'observe, parce qu'on la vit vraiment, alors on crée de la cohésion sociale, on se la réapproprie. Et deuxièmement, se dire que les villes sont elles-mêmes en train de changer. On a des gens comme Oudéum qui font de la construction bois, ça a l'air tout petit, mais en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est parce que le bois est le premier matériau préféré des Français, alors on a de la nature qui vient en ville. Et puis un exemple que je trouve très beau pour montrer que la nature, on peut se la réapproprier et donc il n'y a pas une opposition ville-campagne, c'est à La Réunion, ils ont ce programme incroyable, c'est 1 million d'arbres. Et ils se sont dit sur quelques années, nous on va aller chercher des espèces indigènes et endémiques de La Réunion, parfois des graines qui sont oubliées, on va les replanter et ce faisant on va agir en faveur de l'écologie, mais surtout des quartiers par exemple qui s'appellent comme bois de nèfle, dans lesquels on ne voit plus le bois de nèfle, on va faire réapparaître cette nature. Et donc finalement on permet de, grâce à la nature, de redonner du sens. Parce qu'on va faire réapparaître le nom de la rue ou du quartier dans la nature présente. Et je pense que la nature, il faut la voir ainsi, comme quelque chose que l'on habite, quelque chose qui construit l'appartenance et quelque chose qui n'est pas cantonné uniquement à la campagne, mais qui peut revenir en ville aussi. Et ce seront dans ces villes-là que nous serons heureux demain.
Le lien à la nature, vous le disiez, n'est pas forcément plus fort à la campagne. J'ai un exemple récent dans les carnets de campagne. J'ai reçu la créatrice d'une association dans l'Aube à Brienne-la-Vieille, pas très loin de Troyes. Elle a créé une école de la forêt pour les enfants, pour faire du lien entre les enfants et la nature. Et elle disait ça, elle disait « C'est fou, on est en pleine campagne et ils n'ont jamais vu une grenouille, ils sortent jamais, ils sont toujours chez eux, ces enfants. » Ce lien, il est à réparer partout, y compris en zone rurale.
Valérie Joussomme, votre regard ?
C'est vrai en partie, c'est-à-dire que il y a une homogénéisation de toute la société sur une base, on va dire, moderne. Mais il n'empêche quand même que à la campagne, malgré tout, on va prendre un exemple tout simple en termes d'enracinement dans l'espace-temps qui est si important quand même pour se définir. On a quand même une perception, par exemple, des saisons. Il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure. Il y a quand même une plus grande proximité avec des cycles saisonniers. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas une opposition à faire entre la ville et la campagne. Moi, je dis toujours que c'est un éventail. En fait, parler de ville et de campagne, c'est juste ouvrir un éventail pour parler des différentes façons d'habiter l'espace, en allant vers le plus dense et le plus diversifié, le plus artificialisé, la ville, et en allant vers le moins dense, le moins diversifié et le plus proche de la nature qu'on appellerait la campagne. Et je pense que c'est très intéressant de garder cette idée de ville-campagne, non pas pour en faire une dichotomie, mais plutôt comme un espace de conscience et de réflexion. Je pense que pendant un siècle, on a eu finalement une forme d'urbanisation de la culture et d'urbanisation des façons d'habiter et d'urbanisation de la façon de penser. Aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Alexandre, on pourrait dire qu'on a presque une forme de ruralisation de la façon d'habiter, de reprendre des matériaux, de la façon d'habiter. Et il y a une espèce de va-et-vient entre les deux qui, je trouve, est très beau. Et je trouve que c'est justement dans cette reconnaissance de l'apport des campagnes aujourd'hui pour penser le futur, y compris des villes, qu'on peut justement réparer des blessures de la destruction de la société paysanne qui a été acculturée complètement et qu'on a négligée comme si elle ne pouvait rien nous apporter. Aujourd'hui, je trouve que c'est très beau de penser ou de dire, au fond, ces sociétés paysannes qu'on a détruites, qu'on a un peu ringardisées, ridiculisées, acculturées, au fond, elles avaient des trucs sympas quand même à nous apporter dans la façon de se relier à la nature, dans la façon de se relier avec ses voisins, dans la façon de mutualiser certaines choses. Et je trouve que c'est ça qui est chouette et c'est ça qui guérit aussi.
Et où habitez-vous, tiens, Valérie Joussom?
Alors moi, j'habite dans mon pays natal. Je suis un produit un peu du terroir. J'ai bougé pour mes études et puis je suis vite revenue. Je vis dans les campagnes nantaises, dans le vignoble nantais, entre, on va dire, le pays nantais et la Vendée et les Mauges.
Damien Deville.
Oui, je rejoins tout à fait les propos qui ont été dits. Je pense que ce qui caractérise l'époque dans laquelle on vit, c'est qu'on a perdu la conscience des lieux. On vit en Auvergne sans connaître les volcans, on vit chez moi, une terre de jardin et de chevaux, sans jardinier ni chevaucher. Et parfois pour les gens qui ont toujours été là aussi, il y a cette forme de déconnexion. Il y a un enjeu à retrouver cette connaissance de l'altérité qu'il y a proche de chez nous, tout simplement parce qu'on aime que ce qu'on connaît et on prend soin que de ce qu'on aime. Et ça me fait penser, Ali, à l'une des questions que vous avez posées en début, c'est très lié sur la définition des territoires. C'est vrai que les territoires pendant longtemps ont été des zones de frontières et pensées comme ça. C'est lié à l'histoire de la géographie elle-même. Vous savez, c'est Yves Lacoste qui disait ça. La géographie, ça sert avant tout à faire la guerre. Face aux enjeux contemporains, il y a une nouvelle manière de définir les territoires. Celle à laquelle je m'accroche en tout cas, qui est cette échelle qu'on peut dessiner sur une carte où le vivant s'exprime, où l'oiseau fait son nid, où le castor construit son barrage et où nous, humains, on construit quand même la plupart de nos sociabilités. Là où on fait grandir nos enfants et là où on enterre nos proches. C'est cette échelle qui travaille l'émancipation. Et lorsqu'on définit les territoires comme ça, la géographie sert avant tout à faire la paix.
Bonjour Timothée Duverger, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes en direct de France Bleu Gironde. Vous êtes ingénieur de recherche à Sciences Po Bordeaux et directeur de la chaire territoire de l'économie sociale et solidaire. Tiens, votre regard sur notre conversation.
Je pense qu'effectivement, vous pointez du doigt au fond qu'il y a des recompositions territoriales autour d'une forme de décolonisation de nos imaginaires modernes. Voilà, c'est un peu, si je dois synthétiser, c'est un peu ça l'idée, avec cette ambition au fond que les villes ne soient plus aussi centrales, c'est-à-dire qu'on soit plus dans une vision des territoires qui consiste dans des métropoles interreliées dans un monde global. Voilà. Donc et ça vient parce que ça a été percuté par la pandémie, qui est aussi une crise de la globalisation. Voilà, je pense que c'est ça qui est en train de s'opérer, crise de la globalisation qui amène à un retour au local.
Timothée Duverger, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'économie sociale et solidaire? Dorothée Barba connaît par cœur l'économie sociale et solidaire. Et de quelle façon cette économie sociale et solidaire contribue à donner du sens au territoire?
Bah, d'abord, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie du sens, puisqu'elle pose d'abord la question des finalités, hein, et en particulier, elle vient répondre à des enjeux en matière de transition écologique et sociale. Et par ailleurs, puisqu'il ne s'agit pas seulement de répondre à des finalités, mais aussi de les pratiquer, c'est-à-dire d'aligner, de mettre en adéquation des finalités avec des valeurs, avec des pratiques, finalement. Et donc, elle a des modes d'organisation particuliers qui lui permettent de le faire, à travers des coopératives, des associations, enfin, un certain nombre de structures de ce type. Et automatiquement, ce qui se produit, c'est que dans un contexte où l'État est en retrait, hein, on a parlé de territoires effectivement qui se désertifient, y compris sur le plan médical, sur le plan des services publics et autres, eh bien on voit un certain nombre d'initiatives qui proviennent des habitants eux-mêmes, des citoyens, hein, qu'ils soient d'ailleurs des autochtones ou bien des néo-ruraux, hein, mais souvent c'est vrai que c'est aussi amené par les néo-ruraux, eh bien on voit un foisonnement d'initiatives qui viennent répondre à ce besoin à la fois de construction de services, mais aussi de construction du lien social, d'amélioration des aménités diverses dans ces territoires. Et donc, en fait, si vous voulez, l'économie sociale et solidaire, ce n'est rien d'autre que la vie locale qui s'exprime, en fait, et les ressources locales qui sont mobilisées au service de la valorisation de ce territoire.
Dorothée.
Oui, les fameux tiers-lieux. Alors, c'est un peu la plaisanterie avec Sophie Hoffmann, avec qui je travaille sur les carnets de campagne. Je l'embrasse au passage. On se dit, voilà, un peu ras-le-bol des tiers-lieux dans les carnets de campagne. Mais en fait, non, pas du tout, parce que ça raconte vraiment un mouvement en France, partout d'ailleurs, dans les villes et dans les campagnes, et dans tous les ventailles dont parlait votre invité tout à l'heure. Cette façon de faire différemment, de faire ensemble, de réinventer les lieux. Un tiers-lieu, s'il faut une définition, c'est un lieu de mélange. On peut y travailler, il y a des espaces de bureaux partout. Il y a aussi de la restauration, il y a aussi des ateliers, des cours de yoga, des crèches, des restaurants. On peut tout imaginer dans un tiers-lieu. L'exemple dont on va parler aujourd'hui dans les carnets de campagne est intéressant. C'est une gare abandonnée dans un village de l'Aube qui est devenue un tiers-lieu culturel. Donc aussi bien pour les enfants du coin pour aller prendre des cours de théâtre que pour aller voir des spectacles. C'est la culture à portée de main. Et c'est une initiative citoyenne, c'est une association. Ce sont des gens qui prennent sur leur temps libre, qui se remontent les manches et qui y croient. Voilà, moi la question que je me pose, et peut-être on peut la poser à votre invité, c'est avec tout ce foisonnement de tiers-lieux qui poussent comme des champignons, est-ce qu'ils vont tous survivre ? Est-ce qu'il y a de la place pour tous ces tiers-lieux ? Je me pose sincèrement la question.
Timothée Duverger.
Déjà, il y a un enjeu, à vrai dire, de maillage territorial, parce que pour le coup, il y a encore des formes d'inégalité territoriale dans le maillage de ces tiers-lieux. C'est d'ailleurs l'un des objets de la politique hein, publique qui est menée actuellement. Et donc, le deuxième élément, c'est qu'évidemment, on est sur des activités qui sont hybrides, hein, qui croisent. Donc, un tiers-lieu, il peut à la fois avoir un espace de coworking, mais aussi avoir des activités culturelles, un espace café, une épicerie, même avoir des pratiques agricoles, hein, parce que maintenant, il y a des tiers-lieux nourriciers qui arrivent, hein, parce que ce sont des tiers-lieux qui souvent étaient les tiers-lieux sont nés en milieu urbain, mais aujourd'hui ils sont très présents en milieu rural. Nous d'ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine, on a fait les choses un peu à l'inverse, puisque ça a commencé en milieu rural pour arriver ensuite dans le milieu urbain. Mais en général, c'était plutôt la trajectoire inverse. Et donc évidemment, on est sur des modèles hybrides et donc des modèles économiques qui sont fragiles. Hein, d'où l'importance du soutien de la puissance publique. Et puis ce sont des modèles économiques en construction. Mais pour le coup, ce qu'on observe quand même, c'est qu'il y a une croissance très très forte de ces tiers-lieux. Hein, la pente est quand même assez nette hein, dans le sens de la croissance. Et donc, non, je crois qu'il n'y a pas grand risque là-dessus. Il y a une politique publique aussi qui soutient ça assez fortement. Et puis, ça rend compte ce que vous disiez, c'est-à-dire l'esprit du temps, les aspirations des habitants, la volonté de s'approprier son territoire, d'y avoir des usages particuliers. Donc, je crois qu'au contraire, ils sont promis un bel avenir et qu'ils sont au cœur, effectivement, vous avez raison, de ces recompositions territoriales.
J'aimerais qu'on accueille Françoise du Maine-et-Loire. Bonjour, Françoise.
Oui, bonjour, Ali.
Bonjour. Alors, vous êtes partie vous installer à la campagne ?
Oui, nous sommes partis nous installer à la campagne, là maintenant ça fait 7 ans. Auparavant nous étions en Île-de-France, moi j'y suis née, j'y ai travaillé pendant de nombreuses années on va dire, avec des allers-retours en transport en commun, après en voiture, dans les bouchons, et au bout d'un moment... Le temps de travail, le temps de transport, ça devenait infernal. Pour moi, ça n'avait plus beaucoup de sens. Et du jour au lendemain, comme ça, avec mon mari, en allant préparer le mariage de notre fille qui s'était installée dans le Maine-et-Loire quelques années auparavant, sur le trajet de retour, comme ça, on s'est dit, non, mais... J'ai dit à mon mari, mais écoute, tu te vois pas venir habiter dans un lieu comme celui-là. Moi, j'en peux plus de la région parisienne, je sature... Et au bout de 20 minutes, On a pris notre décision, on s'est dit bon bah c'est bon, on vend la maison, on lâche la boutique.
Waouh.
C'est, et puis, voilà. C'est radical. Ouais. En tout cas, vous avez trouvé dans le Maine-et-Loire, vous avez retrouvé un certain sens à la vie.
Complètement. Ouais. Complètement. Tous les matins quand on se lève, on se dit mais on a une chance folle d'habiter où on est. Bah voyez là, je suis dans mon atelier face à au champ, à la campagne. Je vois des écureuils qui sont en train de jouer sur un tronc d'arbre. Ça c'est un plaisir, mais tout simple. Il y a des gens qui pourraient dire mais c'est complètement désuet, c'est ridicule.
Non non non.
Mais nous
non,
on a un plaisir fou à regarder les animaux, les couchers de soleil, les levées de soleil le matin.
Valérie Joussomme, qui est enseignante et chercheuse à l'Institut de géographie et d'aménagement de l'Université de Nantes, votre regard sur le déclic de Françoise, et peut-être question annexe, comment réussir son intégration dans ce type de territoires ruraux? Il y a des néo-ruraux qui ratent leur intégration.
Oui. On pourrait dire que donc là c'est très intéressant comme témoignage. Il y a pas mal de gens qui sont dans cette démarche là. Alors sur l'intégration, je pense qu'il y a deux. Je vais un peu caricaturer, mais il y a une différence entre les gens qui sont en transition et les gens qui sont dans une logique de distinction. La transition, c'est je vais vers un nouveau modèle de société hors des dogmes de la modernité qui sont l'avoir, la croissance, l'individu, l'accès. Le sentiment de supériorité, etc. Donc, quand je quitte ces dogmes-là, je vais me retrouver dans une humilité, je vais être plus dans l'être, etc. Bon, ça, c'est la transition. Mais il y a aussi une autre catégorie de gens qui sont plus dans la distinction sociale, c'est-à-dire un peu comme Bourdieu qui disait, voilà, le propre des classes supérieures, c'est essayer de se distinguer des masses populaires en faisant par ses goûts et ses choix. Et donc, il y a des gens aussi qui sont dans la distinction, c'est-à-dire qui jouent un peu au néo-paysan, un petit peu comme Marie-Antoinette dans son hameau de Versailles. Alors, vous comprenez que selon l'attitude de la personne qui arrive, évidemment, c'est un petit peu le conte que racontait tout à l'heure Damien, je crois. Évidemment, si vous êtes dans une transition et que vous revenez à la campagne en disant c'est super, etc., vous allez être bien accueillis, aucun souci. Si vous êtes plutôt dans la distinction sociale en venant expliquer comment faire de l'agriculture paysanne à l'agriculteur qu'on conventionnel du coin, ça risque de pas
mais
se passer.
Je suis persuadé que Françoise a parfaitement réussi son intégration dans le Maine-et-Loire. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Alexandre Josse, j'aimerais qu'on revienne sur l'ikigai territorial. L'ikigai, cette fameuse méthode de développement personnel inspirée du Japon et qui permet de trouver sa mission de vie dans un territoire, être à sa place. C'est une question de lieu, de territoire. Quels sont les outils, Alexandre Josse, pour déterminer ce territoire où je vais pouvoir me déployer, donner du sens à ma vie, tout en enrichissant le lieu que j'ai choisi, enrichir évidemment dans tous les sens du terme?
Je pense qu'il faut quand même repartir des grands domaines de la vie, le travail, le participer à la vie locale, ce genre de choses, et chaque fois se demander pas seulement est-ce que je vais trouver un travail, mais par exemple est-ce que le travail que je vais trouver il va avoir du sens. Je parlais tout à l'heure l'exemple de La Réunion, si on est jardinier, on peut être ils ouvrent une nouvelle filière qui est jardinier sensible à La Réunion, et peut-être que ce métier-là, il a plus de sens à être exercé là-bas. Notre rapport, il révèle que le sens au travail est 92% des Français, d'après une étude de 2022, aspirent à le trouver dans leur vie. Ce chiffre n'a jamais été aussi haut. Le sens au travail peut être magnifié par le territoire. Être un chaudronnier dans le Finistère, être dans l'industrie fabuleuse de Dunkerque. Il y a des territoires qui font écho.
Mais quelles sont les questions à se poser pour trouver ce fameux ikigai territorial?
Je pense que c'est qu'est-ce qui, dans mon existence, serait susceptible de donner du sens sur le territoire? Est-ce que, par exemple, participer à la démocratie, ça compte pour moi? Est-ce que j'ai au fond de moi un côté un peu révolutionnaire? Et ben je vais aller à Loos-en-Goël, et à Loos-en-Goël je sais que là-bas... Excuse-moi, je vais dire Loos. Hein.
Désolé Alexandre, on dit Loos.
Donc quand on va à Loos-en-Goël, eh bien on sait que là-bas il y a une règle qui est très simple, qui est une idée, un soutien, une convention. Et donc globalement, l'équilibre du pouvoir, 50% les citoyens, 50% la mairie, et si ça compte pour moi, le projet sur mon territoire, je vais pouvoir le développer là-bas.
Timothée Duverger, cette rencontre entre une mission de vie et un territoire, cela peut être un outil pour aider les chômeurs à retrouver un emploi qui leur corresponde et qui ait du sens.
Oui, en tout cas, ça fait partie de ce qu'on évoquait sur la valorisation des ressources locales. Et les ressources locales, ben, c'est d'abord les gens, en réalité. Hein. Et de ce point de vue, c'est vrai qu'il y a des expérimentations qui sont conduites, qui s'appellent les territoires zéro chômeur de longue durée. Donc, c'est une expérimentation qui est portée par l'État, mais mise en œuvre par des territoires qui sont volontaires et qui mettent au cœur les personnes qui sont privées d'emploi, qui peuvent exprimer leurs envies, leur savoir-faire, plutôt que de simplement répondre à des offres standardisées, d'une certaine manière, et auxquelles ils devraient se plier, des cases dans lesquelles ils devraient rentrer, et bien là, on leur demande leurs envies, leur savoir-faire, et on confronte ça aux besoins des territoires, hein, c'est-à-dire notamment ce qu'on évoquait tout à l'heure, les besoins en services, par exemple, en activité de lien social, tout ce qui est préservation, gestion de l'environnement, etc. Et on construit des activités que l'on porte avec des entreprises à but d'emploi, dans lesquelles, du coup, ces personnes privées d'emploi retrouvent un emploi qui est en CDI, à temps choisi. Et donc, c'est une véritable petite révolution, même dans le rapport au travail qui s'opère, mais dans son ancrage véritablement au territoire et à ses besoins.
Comment trouver un territoire où je me sens à ma place? C'est la question que nous posons avec la fabrique Spinoza et avec Carnet de campagne. Peut-on se sentir à sa place seul dans un territoire? Alexandre Jost, je rappelle que vous êtes le délégué de la fabrique Spinoza. Le lien, c'est quoi? C'est l'ingrédient essentiel pour se sentir à sa place dans un territoire?
Dans les films de science-fiction les plus terribles, le héros va vraiment très très mal lorsqu'il est seul au monde. I will be a legend, c'est pareil dans Rousseau.
Mais l'accent également.
Donc, Luke Lost. Et donc finalement, non. Je pense que l'étude menée qui démontre que ce qui fait qu'on est heureux dans la vie, on en parle souvent de cette étude à Farixuda, c'est l'étude Grant. Ce qui fait qu'on est heureux, c'est l'amour, disent les chercheurs après 75 années de recherche.
C'est la fameuse étude d'Harvard.
Exactement, c'est cette étude d'Harvard. Et donc, heureux sur son territoire, c'est être en relation sur son territoire. Et un exemple inspirant, quand même, quand on parle de faire chapelle au carnaval de Dunkerque, on peut, à l'occasion du carnaval, frapper à la porte de n'importe qui, être invité pour l'apéro.
Génial.
Est-ce qu'on n'a pas envie d'aller sur un territoire où on peut prendre l'apéro avec n'importe qui? Je pose la question.
Et nous accueillons Isabelle Chazeran. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour à tous.
Alors, vous et votre...
Merci pour votre émission.
Merci à vous. Avec votre mari, vous avez quitté il y a quelques années le confort d'Aix-en-Provence pour partager le quotidien de trois quartiers sensibles, au Mureau, à Rieux-la-Pape et à Nîmes. Comment est né ce désir de sortir, j'aime pas trop l'expression, mais je la dis quand même, de sortir de votre zone de confort? Qu'est-ce qui vous a poussé à opérer ce choix de vie assez hétérodoxe?
Alors, chez mon mari, c'est une rencontre qu'il a faite avec une femme qui vivait dans des quartiers difficiles en logement social et qui a témoigné finalement de ce qu'elle y faisait. Ça l'a emballé. Moi, j'ai mis 10 ans à me laisser convaincre, hein, parce que c'était pas du tout ma tasse de thé. Mais finalement, ben, on est parti, mais on a rejoint une association, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti seul. On est parti pour rejoindre une équipe et j'avoue que c'est une expérience, parce que c'est une expérience qui dure toujours, qui est quand même incroyable. Moi, j'ai retenu de votre émission, je l'avais noté, le mot lien. Et en fait, ce qui rend heureux, c'est quand même vraiment d'abord ça, c'est le lien. C'est le lien, c'est de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement, de s'apercevoir finalement qu'ils sont nos frères et qu'ils sont beaucoup plus proches de nous qu'on croit, et de tisser avec eux des liens d'amitié. Et vous avez aussi terminé sur le mot amour. Bon, c'est un mot aussi qui me parle. Quand on est parti, Pierre m'a dit on va partir pour apprendre à aimer et à être aimé aussi. Donc voilà, c'est une belle aventure en tout cas.
En tout cas, c'est une belle conclusion pour cette émission, Damien Deville. Comment trouver le territoire où je me sens à ma place, en guise de conclusion?
Oui, bah peut-être pour rebondir sur les deux témoignages qu'on a reçus. Déjà, c'est chouette d'avoir eu quelqu'un du Maine-et-Loire. Sarthe-Mayenne et Maine-et-Loire sont des départements frères. C'est la même province culturelle à la base que la province du Maine. En fait, on croit que vivre en ville va nous permettre de vivre davantage la diversité humaine. Ce qui est en partie vrai. Les villes sont plus peuplées et plus cosmopolites. Mais en fait, il y a tellement de choix dans les villes qu'on se met à avoir des relations choisies et des gens qui sont comme nous, même niveau d'études, même communauté de valeurs. À la campagne, on choisit pas son propre voisin, mais on est obligé de vivre avec lui finalement. Donc l'expérience de l'altérité est plus intense, bien que moins diversifiée sur le papier. Et ça invite aussi à un retour, voilà, du dialogue. Et là, on vit dans un moment où le débat est très polarisé. Que les territoires soient les gardiens de la démocratie, moi j'aime bien cette idée.
Valérie Joussomme, en quelques mots de conclusion.
Oui, la qualité relationnelle, c'est très très important. Et moi, je dis qu'il y a une espèce de satisfaction des besoins humains fondamentaux. C'est protéger le corps, les territoires qui protègent les corps et les cerveaux. Au fond, c'est une relation physique de ma santé. Est-ce que c'est sain, l'environnement où je suis ? Donc, protéger les corps, la relation physique. Ensuite, relier les cœurs sur une logique non marchande. Vraiment la relation de cœur, gratuite, relativement authentique, c'est fait parce que c'est juste. Et puis enfin, il y a une dimension plus de l'esprit, la qualité de relation d'esprit, et ça, je dirais, c'est donner du sens. Et moi, un territoire qui protège les corps et les cerveaux, qui relie les cœurs et qui donne du sens, c'est les territoires désirables de demain, je pense.
Alexandre Jost.
On s'est donné beaucoup d'espoir. Je vous rajoute deux choses. Un, notre étude est disponible sur le site, donc vous avez plein d'informations, et surtout
lafabriquespinoza.org.
Si vous n'avez pas la possibilité de déménager, eh bien, il reste une manière de faire, c'est se réapproprier son territoire. Quand même, 90 à 80% entre les deux des gens sont heureux là où ils habitent. Les marches exploratoires aux Mureaux, des choses comme Toc ton bitume dans des cités sont des moyens de redécouvrir les richesses de ces quartiers et donc voir qu'en fait, on habite malgré tout, quel que soit le choix qu'on a fait, eh bien, au bon endroit.
Dorothée Barba.
Moi, je le dis vraiment sans angélisme, et je le pense sincèrement depuis que j'anime les carnets de campagne. Chaque territoire a un intérêt, il suffit de s'y pencher, de s'y intéresser de près, et vraiment, le territoire de cœur, ça peut être partout. Et j'ajoute, parce qu'on n'a pas parlé de ça, du lien entre intergénérationnel, le meilleur territoire, c'est celui où sont vos parents, si vous avez la chance d'avoir des parents qui peuvent garder vos enfants. Moi,
oui, c'est important, on est d'accord. Oui.
Tout le monde autour de cette table acquiesce voilà. Vos propos.
Pour les jeunes parents, c'est précieux.
Merci beaucoup Damien Deville, Timothée Duverger, merci Valérie Joussomme, merci Isabelle Chazeran et merci Alexandre Jost. On peut donc retrouver votre étude passionnante de la Fabrique Spinoza sur votre site fabriquespinoza.org. 500 pages très intéressantes. Retrouvez dès maintenant tous les épisodes de notre série « Et si on changeait de vie » sur le site et l'appli France Inter.
Grand bien vous fasse est un podcast France Inter.